Rencontre avec un élu, une émission de Marc Tessier-Dorfeuille, directeur général de Compublic, agence de communication institutionnelle, et délégué général du Club de l'Accession à la propriété.
Bonjour, bienvenue sur cette deuxième rencontre de l'année 2020-21, rencontre avec un élu. Bonjour Benoît Jiménez.
Bonjour.
Vous êtes maire de Garges-lès-Gonesse depuis 2020, une commune de 42 000 habitants. Vous étiez déjà adjoint, chargé de la cohésion sociale. On avait fait d'ailleurs une visite du club des maires de la rénovation urbaine pour voir tout ce qu'il se faisait chez vous. Et vous êtes également conseiller régional d'Île-de-France. Le gouvernement vient d'annoncer 2 milliards d'euros supplémentaires pour la rénovation urbaine des quartiers prioritaires, portant à 12 milliards la dotation de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine. Ce budget vient notamment répondre à l'appel au secours lancé fin d'année par une centaine d'élus dont vous faites partie. Comment allier les objectifs de la rénovation urbaine à ceux de la mixité sociale ?
Bon, pour le moment, on ne sait pas comment ces deux objectifs vont être associés. Hein. Le Premier ministre, effectivement, a évoqué une diversification du parc social, par exemple en ajoutant des résidences étudiantes ou alors des logements type LLS. Alors, c'est vrai que c'est bon signe, parce que c'est la première fois qu'on aborde en réalité de front la politique de peuplement dans le cadre d'une rénovation urbaine, qui est souvent un peu trop axée d'ailleurs sur le bâti. Mais c'est vrai quand même qu'on reste un peu sur notre faim. Parce que concrètement, je ne vois pas de cadre opératoire. Et d'ailleurs, surtout pour les communes comme la mienne, où le parc social atteint presque 50% et le parc privé sous la menace permanente, comme chacun le sait, des marchands de sommeil.
Alors, 2 milliards pour le public, justement, et 2 milliards pour le privé. Vous dites que vous êtes à 50-50, avec cette difficulté d'avoir en effet aujourd'hui des collectifs privés qui pourraient être dégradés. Comment voyez-vous justement cet usage de ces moyens entre le public et le privé dans une ville comme la vôtre ? Et sans tomber, et comment lutter contre les marchands de sommeil ?
Eh ben, on essaie de faire feu de tout bois en réalité. Hein. Il y a notamment l'autre sujet qui est celui des DALO, qui est une belle avancée. C'est une avancée assez extraordinaire, mais avec les préfets, ils font finalement ce qu'ils peuvent pour faire appliquer le droit au logement. Et ils s'appuient surtout sur nous pour demander des comptes à tous les autres qui ne respectent pas le quota de logements sociaux. Pour ce qui est des marchands de sommeil, on essaie de mettre en place aussi des dispositifs. Alors, on n'est pas seul, on le fait notamment à l'échelle de la communauté d'agglomération, en l'occurrence chez nous, c'est Roissy, Pays de France, des dispositifs en place tels que le permis de louer. Le permis de louer est un des dispositifs qui nous permet, alors on l'a lancé sur le territoire il y a de cela à peu près un an, et on essaie du coup, au travers de ce dispositif, de reprendre un peu la main sur les marchands de sommeil, puis après ensuite par le bouche à oreille, et quand un premier a déjà sévi, qu'on voit le nom réapparaître ici ou là, on utilise aussi parfois, même si les moyens sont quand même contraints, le droit de préemption. Ça peut aussi faire partie de la caisse à outils pour lutter contre les marchands de sommeil.
Et là, il y a un dialogue permanent avec le préfet aujourd'hui sur ce type de sujet dans la collectivité locale ?
Oui, de toute façon, c'est un phénomène grandissant, hein, celui des marchands de sommeil. Donc, il faut qu'on reste vigilant, parce que typiquement sur des zones pavillonnaires, on est dans de la dégradation de zones pavillonnaires assez rapide, qui viennent tout de suite saturer le stationnement. On le voit aussi parfois au travers du nombre d'enfants inscrits dans les écoles, mais le dialogue il reste permanent, mais on est finalement assez isolé quand même sur ce sujet-là de la lutte contre les marchands de sommeil.
C'est sûr que s'il y a 6 familles dans un pavillon, ça doit faire quelques voitures dans la rue en matière de circulation. C'est une des difficultés du quotidien que vous devez rencontrer. On est aussi à l'heure post-COP21, on parle quand même beaucoup d'environnement à la veille de ces élections régionales, malgré les difficultés que nous connaissons tous autour de la Covid. Mais aujourd'hui, comment la nature pourrait reprendre sa place dans un centre-ville qui est fortement urbanisé comme le vôtre, même si lorsqu'on était venu sur place, je me souviens qu'entre les deux espaces de la ville, il y a des champs au milieu avec les premières vaches de l'Île-de-France de mémoire.
Oui, absolument. Alors, c'est vrai que ces dernières années, la part belle, elle a pas mal été faite à des constructions avec des motifs minéraux. Tout ça est déjà un peu en réalité dépassé, et c'est finalement pas très adapté à la transition écologique. Donc pour chaque projet, on va exiger finalement une part de verdure. Et en parallèle avec mes équipes, on travaille sur une trame verte qui va chez nous du Fort d'Estaing jusqu'au parc Georges Valbon qu'on appelle le parc de la Courneuve, sur un projet qui s'appelle Garges Paysages et qui est un espace de nature continue et transverse entre les différents quartiers qui concerne environ 7 quartiers de ma ville et sur lequel on essaie de lui donner une identité liée à l'économie sociale et solidaire. Et enfin, aussi avec le syndicat d'assainissement, le syndicat intercommunal de l'aménagement hydraulique que j'ai l'honneur aussi de présider, on ambitionne plusieurs opérations de reméandrage autour des rivières pour redonner plus de place et à la nature en général, mais aussi à l'eau en particulier. Moi, j'y crois beaucoup à la place de l'eau dans la ville.
Donc une reconquête des rivières, une place de l'eau dans la ville et en même temps sur la voirie, pas que sur les immeubles, retrouver de la verdure au cœur de la ville.
Exactement.
C'est l'objectif que vous vous fixez. Vous avez écrit à la ministre des Sports ainsi que 80 autres de maires concernant l'application des mesures en faveur du sport dans les quartiers prévus dans le plan Borneo. Elle vous a répondu où est-ce qu'on en est? Parce que le sport dans les quartiers où il y a énormément de jeunesse, c'est très important.
Alors c'est vrai que pour resituer, le 14 novembre dernier, on avait écrit au président de la République pour solliciter le 1% du plan de relance pour les villes populaires, à l'issue de quoi on a travaillé un certain nombre de sujets, et notamment celui effectivement de l'inclusion par le sport, et avec effectivement 80 maires, parlementaires, personnalités du monde sportif. On a écrit cette lettre ouverte au Premier ministre et à la ministre des Sports pour l'alerter justement sur l'urgence de nos clubs sportifs dans nos villes populaires qui sont aujourd'hui malheureusement en train de mourir. Et le 1er février dernier, on a tenu ce qui devait initialement être le Grenelle pour l'éducation et l'inclusion par le sport, qui s'est transformé à cause de la condition sanitaire que chacun connaît, en Conseil national des solutions par le sport. Et on a pu, du coup, avec encore une fois un certain nombre de maires, de parlementaires et de personnalités du monde sportif, faire 10 propositions concrètes pour redonner une nouvelle ambition au sport dans nos villes populaires, et surtout travailler sur un sujet qui, moi, me tient à cœur, c'est celui de l'insertion socio-professionnelle et de l'inclusion par le sport, parce qu'au travers du prisme du sport, on peut, et on a commencé déjà à le faire à Garges-lès-Gonesse, on peut intégrer et insérer un certain nombre de jeunes dans la vie professionnelle.
Et là, vous comptez sur le soutien de l'État, mais aussi, j'imagine, de la région dans laquelle vous êtes élu, parce que là, on peut aller trouver des partenariats croisés, j'imagine, pour soutenir ce type d'initiative.
Complètement. On sollicite évidemment, nous sommes exigeants avec l'État, mais on l'est en réalité déjà nous-mêmes, avec nous-mêmes, pardon, nous les maires, avec les collectivités locales, parce que nous sommes, faut-il le rappeler, les premiers financeurs du monde sportif amateur à plus de 80%. C'est nous qui subventionnons, c'est nous qui mettons à disposition les salles, les gymnases, les dojos, les piscines et les patinoires. Et donc nous, on s'applique à nous-mêmes ce que l'on sollicite à l'État, mais pas que, vous avez raison. Il faut aussi qu'on aille du côté des régions, des départements, mais également aussi du monde de l'entreprise et aussi des fédérations. Tous ensemble, on peut aller forcément plus loin sur ce sujet important.
Aujourd'hui, quelle perspective vous voyez? Vous êtes élu en tant que maire maintenant depuis les dernières élections, sur les 5 ou 10 ans qui viennent. Comment vous voyez-vous l'immobilier progresser entre le public et le privé dans une ville comme la vôtre? Dans vos rêves les plus fous, c'est quoi les changements auxquels il faudrait aboutir avec certitude?
Dans les échanges entre le public et le privé dans nos villes, il faut qu'on arrive finalement à travailler sur des opérations qui soient, je crois que chacun doit aussi faire son travail. C'est-à-dire que c'est pas au public de faire du privé, vice-versa. Mais l'espace public et puis surtout les services publics au cœur du quartier, c'est quelque chose qui, moi, me tient à cœur, la place des commerces. Également et notamment pourquoi pas au sein de cellules commerciales que les partenariats publics puissent aussi être présents au cœur du quartier et c'est finalement et je pense notamment à des sujets qui sont prépondérants sur des villes comme les miennes, sur les villes populaires, notamment sur le sujet de la santé où on voit les déserts médicaux malheureusement s'accroître. Et c'est peut-être important justement dans ces partenariats privés et publics de pouvoir permettre au public de pouvoir aussi avoir toute sa place sur des cellules qui puissent être du privé pour permettre justement que les services publics les plus essentiels continuent d'être présents partout sur le territoire français, notamment dans nos villes et dans nos quartiers populaires.
Là, vous avez aujourd'hui, c'est vrai que c'est important ce que vous dites. Nous, on vient de lancer le Club Cœur de Ville et les sujets de santé pour les villes ne doivent pas être oubliés. Ce n'est pas des sujets immobiliers. Et encore, il peut avoir accueillir un centre de santé au niveau local qui va devenir un cœur du quartier ou un cœur dans le cœur de ville qui peut d'ailleurs mixer santé pour les jeunes et pourquoi pas maison de retraite ou EHPAD, une santé mixte pour tous. Ça fait partie des chantiers que vous souhaitez ouvrir pour les années à venir?
Complètement. Moi, je crois beaucoup au modèle. J'y crois parce on en a fait la démonstration, notamment à Garges-lès-Gonesse, sur un quartier sur lequel la rénovation urbaine a démarré depuis peu, dans un quartier qui concerne 6 000 habitants et dans lequel il n'y avait plus un seul professionnel de santé, avec l'engagement d'une association qui a un modèle économique pérenne, qui a simplement sollicité l'aide des pouvoirs publics sur l'investissement sur lequel nous sommes intervenus, notamment avec la région Île-de-France. Aujourd'hui, c'est un centre dentaire sur lequel se trouvent 10 dentistes et 2 gynécos viennent de rejoindre le centre de santé. Et c'est un modèle associatif. Les médecins viennent, soignent, ne s'occupent pas de la paperasse. Et puis, il y a aussi toute une dimension sociale et solidaire dans le dispositif, puisque l'ensemble des personnels autour des médecins, et d'ailleurs même maintenant 2 médecins, puisque un des dentistes vient de Garges-lès-Gonesse sur les 10, mais également tous les agents autour des médecins sont issus du territoire. Donc voilà, ensemble, on peut créer des choses plus qu'intéressantes au service de nos populations.
Merci Benoît Jiménez. On voit bien trois grandes directions que vous voulez porter. L'une avec un verdissement, que ce soit dans les rues, mais aussi dans les immeubles. L'autre autour du sport, qui est un véritable axe pour pousser les jeunesses et lier cette insertion socio-professionnelle et la santé qu'on ne peut pas oublier. Voilà quelques belles années à raconter avec vous. Merci de votre présence. Très bonne journée à tous et à très bientôt
Merci
dans un
à
mois
vous.
Pour Rencontre avec un élu.
Rencontre avec un élu, une émission de Marc Tessier-Dorfeuille, directeur général de Compublic, agence de communication institutionnelle, et délégué général du Club de l'Accession à la propriété.